Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
A tout de suite votre journal complet. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
6h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Ce nouveau variant, il est effectivement très contagieux. Bon, il ne semble pas plus agressif que ce que l'on a connu jusqu'à présent.
Beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes autour de la variante britannique du coronavirus. 8 cas au sein d'un même foyer à Marseille. En parallèle, le gouvernement craint aussi un rebond épidémique 10 jours après les rassemblements du 31 décembre. Des décisions devraient être prises dans la semaine. Donald Trump, de plus en plus isolé, moins d'une semaine après les émeutes au Capitole, menacé d'une nouvelle procédure de destitution, le président sortant est même confronté dans son propre camp à des appels à la démission. Dans ce journal, le casse-tête des marins bretons et normands à cause du Brexit, il leur faut désormais une autorisation pour pouvoir pêcher au large de Jersey. Et puis 2020, année catastrophique pour le secteur de la musique, vous verrez que le streaming ou encore le vinyle tire leur épingle du jeu.
À suivre, les sports avec Jérôme Lacroix et mon invité inattendu est une ancienne participante au Paris-Dakar à l'époque, qui vient rendre hommage à la légende du rallye Hubert Auriol.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était il y a un an, jour pour jour, le 11 janvier 2020, la Chine annonçait le tout premier mort du Covid-19. Un an après, la pandémie a fait près de 2 millions de victimes. En France, on craint l'émergence d'une troisième vague épidémique. 10 jours après le réveillon de la Saint-Sylvestre et l'inévitable hausse des contaminations, le gouvernement surveille de près la situation sanitaire. Et d'ailleurs, Adrien Beck, l'exécutif devra prendre des décisions cette semaine.
Oui, et cette inquiétude, on la mesure aux mots utilisés ces dernières heures par nos interlocuteurs au gouvernement. Semaine décisive, semaine charnière, nous dit-on. Quand on est à un plateau comme celui-ci, soit on descend, soit on va monter très vite, résume un conseiller ministériel. En clair, l'exécutif attend les chiffres du nombre de contaminations des prochains jours pour mesurer un possible effet 31 décembre. Il scrutera aussi l'évolution du variant anglais et les effets du couvre-feu. Le conseil scientifique doit remettre une note demain pour en évaluer l'efficacité. À partir de là, mercredi, devrait se tenir un nouveau conseil de défense. Et cette fois, on nous le répète, il faut s'attendre à des annonces de Jean Castex. Le lendemain, on évoque un durcissement du couvre-feu, alors que c'est dans l'Est que le nombre de cas est le plus élevé, mais dans l'Ouest que la dynamique est la plus forte. Enfin, l'hypothèse d'un nouveau confinement national n'est pas sur la table à ce stade, sauf évidemment en cas de flambée incontrôlée. C'est le cas en ce moment en Irlande ou au Portugal.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Vous parliez, Adrien, du variant anglais de ce virus. 8 cas ont été recensés au sein d'un foyer épidémique familial à Marseille. C'est d'ailleurs pour cela que les Bouches-du-Rhône ont basculé en couvre-feu anticipé depuis hier.
Le maire de Marseille, Benoît Payan, appelle le gouvernement à agir au plus vite et notamment à contrôler davantage les entrées et sorties du territoire. Dans les hôpitaux, on craint déjà une hausse de patients en réanimation et une situation qui pourrait vite devenir incontrôlable. Le professeur Dominique Rossi préside la commission médicale d'établissement de la PHM.
Ce nouveau variant, il est effectivement très contagieux. Bon, il ne semble pas plus méchant, plus agressif que ce que l'on a connu jusqu'à présent. Mais enfin, je vous donne un chiffre. Le 24 décembre, on avait 56 malades hospitalisés hors réanimation.
Oui.
Aujourd'hui, on est à 80 malades, ce soir, hospitalisés en réanimation. Les réanimations restent stables, mais ce que l'on sait, c'est que le nombre de malades en réanimation augmente en flèche 10 à 15 jours après l'augmentation dans les unités hors réanimation.
Oui.
Ce qui veut dire que nous nous préparons pour une augmentation du nombre de malades en réanimation dans les 15 jours à venir, mais tout ça avec des difficultés, du personnel épuisé par ces deux vagues. Mais c'est vrai que ça va être un défi du personnel médical et paramédical.
Le professeur Dominique Rossi de la PHM, invité du 18-20 de Wendy Bouchard hier soir sur Europe 1. En Allemagne, le virus a fait 40 000 morts. Le pire est encore à venir, selon la chancelière Angela Merkel. Plus de 80% des lits en soins intensifs sont occupés.
Autre grand titre ce matin, à moins de 10 jours de la fin de son mandat. Donald Trump est dos au mur, à tel point que la question se pose. Va-t-il rester à son poste jusqu'au 20 janvier?
5 jours après l'attaque contre le Capitole par des partisans du président sortant, les démocrates poussent pour une procédure d'impeachment, mais elle pourrait ne pas aboutir avant plusieurs semaines. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. Pendant ce temps-là, Donald Trump a bien l'intention de vanter le bilan de son mandat.
Oui, il sera mardi à Alamo, au Texas, au pied du mur, à la frontière avec le Mexique, sa grande promesse de campagne de 2016. Ce sera la première apparition en public de Donald Trump depuis l'attaque contre le Capitole. Le président est de plus en plus isolé, il n'a pas parlé à Mike Pence, son vice-président, depuis mercredi, et au cours du week-end, plusieurs sénateurs républicains ont demandé sa démission et son départ immédiat de la Maison-Blanche avant la fin de son mandat dans 9 jours.
Mais alors, une démission semble peu probable, Alexis, mais le président va-t-il quitter la Maison-Blanche avant le 20 janvier ?
Eh bien, les démocrates poussent dans cette direction, mais le calendrier ne joue pas en leur faveur. La Chambre des représentants va officiellement demander dans quelques heures au vice-président de déclencher le 25e amendement pour déclarer Donald Trump inapte à ses fonctions. Sans réponse dans les 24 heures, la Chambre votera un impeachment, mais ce ne sera pas suffisant pour faire partir Donald Trump. Il faut pour cela un procès devant le Sénat et il ne pourrait pas commencer avant le 20 janvier, soit le jour de l'investiture de Joe Biden. C'est pourquoi des voix s'élèvent chez les démocrates pour retarder le procès afin de ne pas paralyser le début de mandat du nouveau président. Il y a d'autres urgences, comme le vote de mesures économiques pour les Américains qui font face à la pandémie. L'intérêt de ce procès décalé, qui pourrait se tenir après les 100 premiers jours de mandat de Joe Biden, serait alors de rendre impossible une future candidature de Donald Trump.
Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1, les États-Unis qui ajoutent les rebelles houthis du Yémen à leur liste noire des groupes terroristes. Déclaration cette nuit du secrétaire d'État, Mike Pompeo.
6h07 sur Europe 1. Nous revenons à présent sur le Brexit. Cela fait 11 jours maintenant que la Grande-Bretagne a officiellement quitté le marché commun de l'Union européenne. Mais il reste encore quelques dossiers à régler, notamment celui de la pêche au large des îles Jersey.
Un accord local baptisé le traité de la baie de Granville permettait jusqu'à présent aux pêcheurs français et des îles anglo-normandes de pêcher les uns chez les autres, sans restriction. Mais ça, c'était avant. Désormais, les Bretons et les Normands devront obligatoirement obtenir une autorisation, une licence pour se rendre dans ces eaux. Un dossier si épineux que le service central du renseignement territorial de la police nationale a émis une note confidentielle qu'Europe 1 s'est procurée. Mathieu Bock.
Impossible pour Éric Le Guélinel de dépasser les eaux de Jersey avec son bateau, il est trop petit et de toute façon la concurrence est trop rude au large. S'il ne peut plus pêcher autour des îles anglo-normandes, il perd tout.
Dans certains endroits en basse Normandie, vous sortez du port et vous êtes dans les eaux de Jersey. Le rayon d'action des petits bateaux n'est pas si grand et si vous déplacez un pêcheur, vous tombez sur un autre pêcheur, vous ne tombez pas sur du vide. Ailleurs, il y a déjà des pêcheurs, la mer c'est pas un espace infini. Il y a une partie de nos bateaux dont je fais partie pour lesquels l'activité est 100% dans les eaux
de
Jersey.
La situation est tellement délicate que la ministre de la mer Annick Girardin a passé 2 jours en fin de semaine dernière auprès des pêcheurs pour les rassurer et a obtenu in extremis une prolongation du traité.
Nous avons œuvré ce week-end afin que tous les navires puissent se rendre en mer, pêcher dans les eaux de Jersey à titre provisoire et ce jusqu'au 30 avril. Je veux saluer la bonne volonté de Jersey qui autorise à titre donc temporaire et dans un souci de bon voisinage, et ça c'est important de le garder, que les navires qui ont déposé des demandes puissent aller pêcher.
Et malgré ces licences temporaires, les Français redoutent que petit à petit, ils soient expulsés de ces eaux poissonneuses, alors que les Anglo-Normands vendent 75% de leur pêche, c'est-à-dire la totalité de leurs exportations, dans les criées françaises.
Mathieu Bock.
On connaîtra cet après-midi le nom des nommés aux prochaines Victoires de la Musique. L'occasion de tirer un bilan de cette année 2020, si difficile pour ce secteur.
4 milliards d'euros de pertes, rien qu'en France, des milliers d'emplois menacés, 300 000 intermittents du spectacle sans travail. Et pourtant, malgré cette année orageuse, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Angèle Châtelier.
Le grand gagnant de l'industrie musicale en 2020, c'est le streaming. Plus 20% d'écoute sur les 6 premiers mois de l'année. Et puis certes, la fermeture des disquaires a fait perdre 200 millions d'euros au secteur du disque. Mais il y a une petite bonne nouvelle, c'est le vinyle, dont les ventes ont augmenté cette année. Il représente désormais un tiers des ventes physiques. Une hausse de 17% en un an, qui a profité aux gros vendeurs d'albums comme Calogero ou Francis Cabrel. Et autre élément intéressant, ce sont les concerts en ligne, devenus payants, qui pourraient bien perdurer après la crise sanitaire. Ce que projette Sam Smadja, le producteur de plusieurs grands artistes pour SB Productions.
Gims ou Dadju ou Slimane et Vita, ça sera pour eux la possibilité d'aller toucher des gens qui ne seraient pas venus au concert. Par exemple, ils ne passent pas à Dijon, mais ils ont tout un public à Dijon qui a envie de les voir. Ils peuvent faire une date en live streaming. Ça va faire partie aujourd'hui, pour la plupart des artistes, de leur tournée.
D'autant que ça peut être rentable. 60 000 personnes ont payé 25 euros pour voir un concert en ligne de M Pokora en décembre. Ce qui représente donc 1 500 000 euros de chiffre d'affaires.
Oui, c'est ce qu'on appelle des vrais fans. Angèle Châtelier.
Concert dans son canapé, c'est quand même pas tout à fait la même chose que dans la fosse. Sophie Echen, 6h10.